Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abras le corps.
Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en cette rentrée pour de nouveaux podcasts d'Abras le corps. Après quelques vadrouilles, de belles lectures, de chouettes rencontres et un certain nombre de réflexions sensibles comme militantes, je sais que la forme de ce podcast va être amenée à pas mal évoluer. Je me laisse m'organiser peu à peu, souhaitant notamment donner encore plus de place au dialogue et collage de témoignages différemment situés. Aujourd'hui, je reprends le cycle sur le rapport aux lieux et aux espaces. Dans le premier épisode, j'avais évoqué comment la question des espaces que nous traversons et que nous habitons est au cœur de beaucoup de mes réflexions sur ce qui façonne politiquement et intimement nos corps, nos relations, nos imaginaires. L'appropriation de l'espace, les possibilités de s'y projeter, de s'y sentir chez soi, s'articulent toujours selon différents degrés de privilèges, selon si l'on est renvoyé ou non, à telle ou telle minorité, pour qui les espaces publics comme privés ne sont pas pensés, selon si l'on a les moyens, les capacités d'obtenir un chez soi, si on a pris l'habitude d'en avoir un, selon les événements de la vie, les fictions qui nous sont accessibles, la manière dont les environnements que nous connaissons concordent avec nos besoins intérieurs, répondent, apaisent ou alimentent nos angoisses. La question du chez-soi est large, ouverte à de multiples interprétations. Plus qu'à un rapport de propriété, elle renvoie souvent à un besoin de refuge, à la fois garant de sécurité et de réconfort. Un endroit où l'on peut être avec soi-même, se soustraire au regard du monde, une pause dans la performance sociale constante. Un endroit qu'on serait libre de quitter et de retrouver, indépendamment de l'avis des autres ou de mesures gouvernementales autoritaires. Un endroit où poser nos affaires, que l'on peut façonner, creuser, décorer, où l'on se ressource, c'est-à-dire où l'on peut trouver le calme et l'espace nécessaires pour imaginer des projets, des envies, pour créer, faire donc autre chose que survivre, que devoir être constamment sur ses gardes, en hypervigilance. Il s'agit du droit d'habiter au-delà des limites de son corps, ce premier endroit où nous vivons, mais non le seul, contrairement à la phrase de l'entrepreneur Jim Rohn, qu'on entend en générique de ce podcast. Nous devrions pouvoir nous trouver des chez-soi aux endroits de nos choix, mais le capitalisme a suffisamment fait son œuvre les siècles passés pour s'approprier, fragmenter et inégalement distribuer l'espace, le soumettre à toujours plus de restrictions et ainsi nous imposer son cadre, ses murs et ses règles discriminatoires. Cet été, tandis que je vadrouillais, je sais qu'ici à Bordeaux, comme dans tout un tas d'autres lieux, les expulses de squats ont continué. Autour de moi, beaucoup d'amis se retrouvent en galère de logement parce que les propriétaires de leurs apparts décident tout à coup de vendre et leur laissent très peu de temps pour quitter les lieux, ce qui n'a rien de légal. Mais que peuvent-ils y faire? Quand on est déjà pris dans le flot de sa vie, de ses études, de ses galères, a-t-on vraiment le temps, l'énergie, les connaissances juridiques, administratives, voire l'argent pour entamer des démarches contre l'agence ou les propriétaires qui normalement devraient proposer des solutions de relogement? On a souvent plus vite fait de retrouver une autre solution de logement, bien que temporaire. La violence administrative fait bien son taf, surtout lorsqu'elle véhicule toute son armada de discrimination et de micro-agressions, en obligeant à fournir toujours davantage de papiers, de preuves, de ressources, à ne pas reconnaître nos identités auto-choisies, en mégenrant les personnes trans et non-binaires, en compliquant toujours davantage les démarches lorsque les documents viennent d'autres pays ou sont orthographiés différemment ou dans d'autres langues, en ne reconnaissant pas les liens affectifs, émotionnel, autre que ceux du sang, du pax ou du mariage, pour des personnes vivant ensemble, etc., etc. À Bordeaux comme ailleurs, l'immobilier flambe en attendant qu'on le crame. La concurrence pour trouver un logement se fait de plus en plus surréaliste et impitoyable. Toujours davantage de queues lors des visites, toujours davantage d'ingérences dans la vie privée, de crimes arbitraires, de critères arbitraires pour les dossiers des locataires, des cautions toujours plus lourdes. Alors même que les politiques parlent de restreindre et réglementer encore davantage les aides sociales, et tandis que des immeubles s'effondrent pour insalubrité. À côté de cela, et en dépit du Covid, le modèle de vie prédominant nous incite à nous montrer toujours plus mobiles, pour nous adapter à la flexibilité du travail, au marché des études et des masters très aléatoires, sélectifs, et dont les résultats tombent un peu à n'importe quel moment. Bref, Ces changements influent sur l'évolution des représentations et des attaches que l'on entretient aux lieux. L'histoire des lieux de ma grand-mère, que j'ai interviewée cet été, est bien différente de celle de Charlie, que vous allez entendre ici. Charlie aménage pour la première fois seul dans un logement. Il bouge de Bordeaux à Strasbourg pour ses études. Il ne sera pas question ici de toutes les violences de logement évoquées en introduction. Cette interview laisse davantage parler le rapport sensible et émotionnel aux espaces, tant naturels qu'urbains. Je crois que nous partageons un rapport assez similaire, Charlie et moi, aux lieux qui comptent ou ont compté pour nous. Une attache qui, sans s'accrocher à une forme précise de spiritualité, flirte avec le mysticisme, à moins que ce ne soit que la simple expression de nos rêveries. Dans son témoignage, Charlie montre comment nous pouvons investir des formes de chez-soi en dehors des lieux où nous dormons, où nous habitons de manière stricto sensu. Comme pour Moka, interviewé dans le premier épisode de ce cycle, on voit comment les différents lieux et manières d'habiter et de partir dans l'enfance façonnent notre approche des nouveaux espaces. Son sentiment de bien-être et d'enthousiasme dans son nouveau chez-soi résonne avec ce que je ressens moi aussi désormais, à Bordeaux, dans ma nouvelle maison, après avoir beaucoup fui et cherché ma place un peu partout ces dernières années.
Du coup, je suis avec Charlie,
espérant
qui est
que
dans
cette interview
son
vous plaise,
appartement à Strasbourg,
vous fasse écho peut-être. N'hésitez pas à me contacter
du coup,
si
Charlie,
vous souhaitez vous aussi me parler de votre rapport au lieu,
aux espaces de base,
ou de tout autre sujet. Belle écoute.
J'ai un rapport très sentimental au lieu et aux espaces de manière générale. Pas forcément tout, mais par exemple, j'étais vraiment triste quand ma meilleure amie a déménagé, parce qu'on a eu une période où on n'allait vraiment pas bien et on passait beaucoup de temps dans son appart. Et elle est déprimée parce qu'elle vivait seule à l'époque, et du coup elle aimait bien que je sois là, et du coup je partais quand on commençait à s'endormir le soir vers entre 23h et 2h du matin, et je débarquais avant qu'on aille à la fac, donc plutôt vers 7h30, 8h. Et du coup c'est un lieu où j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et où il y a eu beaucoup de réflexions, de changements et de choses dans ma vie qui ont été bouleversées. Et du coup il y a un peu ce truc quand elle a déménagé de « Ah, je reviendrai plus jamais », c'était un peu triste. Et puis ça va, hein. Mais moi je crois que j'ai plutôt un rapport très, très sentimental au lieu.
Et du coup, tu dirais que c'est plus rattaché aux personnes avec lesquelles tu partages les lieux, ou c'est aussi genre les espaces...
Non, parce qu'il y a des espaces qui sont rattachés qu'à moi et qui sont quand même importants. Il y avait un parc quand j'étais ado, quand j'avais entre 13 et 15 ans, où j'allais pour être seule, justement. Et c'est un parc à Bordeaux, faut y aller, c'est magnifique. C'est le parc Rivière. C'est vers le Grand Parc. Et à l'intérieur, il y a un espèce de château à mon nez. Bon, c'est pas du tout un château, en vrai, le truc, c'est pas si grand que ça, tu vois, mais ça fait très ruine. Et j'allais là-dedans pour écrire et dessiner. Je me déclope en cachette parce que ma mère y allait pas et que là, moi, j'étais sûre de pas me faire gauler. Et ouais, j'ai un attachement très fort à ce lieu. Et pourtant, j'y suis pas. Enfin, j'ai vécu à Bordeaux encore des années après et je pense que j'y suis pas retournée depuis peut-être mes 18 ans en vrai. Hein. Mais
c'était quoi qui te plaisait, qui t'inspirait, qui te faisait te sentir bien?
Je crois que les trucs en ruine, de manière générale, ça a plutôt tendance à m'apaiser. Et c'est un parc où t'as pas trop... Y a pas grand monde qui y va. Et j'aime pas trop les parcs où, tu sais, t'as cette impression de... Tu vois, par exemple, le jardin public, si je... Bon, il était juste en bas de chez moi, donc c'était le parc où j'allais le plus parce que c'était en bas, tu vois. Mais je trouve que de tous les parcs de Bordeaux, c'est vraiment pas le plus intéressant parce qu'il a ce truc d'être très très carré, il y a des allées et l'herbe elle est bien coupée et tu vois il y a des grandes étendues, enfin, c'est propre, tu vois. Et genre si je dois aller dans un parc, à la limite je préfère le parc bordelais qui a ce côté très, tu vois, t'as un peu plus l'impression d'être dans un truc qui pourrait ressembler à une forêt et ça me parle plus.
Et t'arrives à connecter assez vite avec des nouveaux lieux, enfin, et tu sais ce qui fait que tu peux accrocher avec un espace ou pas, il y a des trucs qui reviennent ou...
Je sais pas trop. Je crois qu'il y a des espaces où j'ai conscience très vite qu'ils vont être importants dans ma vie. Mais tu me diras, non, ça marche pas forcément parce que j'ai aucun attachement, par exemple, au deuxième lycée dans lequel j'ai été, alors que j'ai quand même un attachement assez fort au premier. Mmh. Et par exemple, le bâtiment de ma prépa, rien à foutre quoi. Par contre, ma fac, pour le coup, genre, je suis allée lui dire au revoir. Enfin, j'avais écrit une lettre d'adieu à ma fac. J'ai passé plusieurs heures dans la fac à vraiment dire au revoir au lieu, tu vois. Et je sais pas. Je crois qu'il y a un truc, je sais pas si c'est les ondes, les lumières, tu vois. C'est un truc, tu vois, d'énergie dans les choses qui te font connecter avec des lieux. Okay. Tu vois, un truc un peu mystique, ou si c'est juste une question de lumière et de température et de...
C'est pas qu'une question de bons souvenirs dans un endroit ou de mauvais souvenirs, par exemple.
Non, il y a des endroits où tu rentres dedans et t'as immédiatement un sentiment de... Et au contraire, il y a des endroits où je me sens hyper mal. Et je sais pas trop pourquoi, tu vois.
Mais il n'y a pas des trucs qui reviennent dans ces endroits-là que t'associes à quelque chose qui fait que t'es pas bien mais...
Bah, je pense qu'il y a ça, et puis c'est genre... Je sais pas si j'y crois au surnaturel, etc., tu vois, mais par exemple, quand j'étais ado, on a vécu pendant 2 ans dans une maison qui, par ailleurs, était très belle. Enfin, c'était un bâtiment qui était classé à patrimoine de l'UNESCO, etc., tu vois. Enfin, c'était vraiment beau, tu vois. Et quand j'étais là-bas, j'ai vécu le pire du pire de ma dépression. Enfin, j'étais hospitalisée plusieurs fois à l'époque. Et ma mère, elle a jamais été aussi mal de toute sa vie. Et en fait, mon voisin du dessous avait aussi des gros problèmes de santé mentale. Ma voisine du dessus avait des gros problèmes de santé mentale. Et genre, nos voisins d'à côté étaient genre complètement fucked up aussi, tu vois. Et il y avait un truc de, je sais pas, cette baraque, moi je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas avec la maison, tu vois. Après, j'ai pas vu de fantômes, enfin, tu vois, c'est pas un truc de surnaturel, tu vois, mais je me demande s'il y a pas des lieux comme ça où t'as des énergies qui sont négatives et genre, je sais pas d'où ça pourrait venir et je sais pas si... Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y a un truc surnaturel ou de je sais pas quoi, de... Mais ouais, je sentais des ondes de merde dans la maison et...
Et du coup, enfin, t'as envie de parler des différents endroits qui t'ont marqué. Donc, enfin, t'en as déjà cité quelques-uns. Mais il y a des endroits, par exemple, qui te manquent aujourd'hui, dans lesquels tu t'es senti bien.
Il y a une forêt qui me manque. L'appartement de ma grand-mère. Et la chambre de quand j'avais 7 ans, je dirais.
Ok. Tu vois, pareil, c'est juste du ressenti, il n'y a pas genre d'explication ou d'analyse particulière.
Bah, la forêt, c'était une forêt à La Réunion. Du coup, il y a un peu ce truc de genre, je peux pas y retourner, c'est à plusieurs milliers de kilomètres. Et c'est une forêt dans laquelle on allait quand je vivais là-bas. Et c'est une forêt vierge. Et quand tu la traverses, quand tu arrives au bout, t'es face à un ravin, donc une très grande falaise, et t'avais tout le temps du brouillard à cet endroit-là, et t'avais vraiment genre un truc de genre l'immensité de la nature à perte de vue. Je me demande si on voyait même pas la mer d'ailleurs, c'est possible que si, mais je suis pas sûre. Et elle avait un truc hyper féerique, et je me rappelle que j'avais 10 ans à l'époque et du coup, j'avais plus de... Je croyais plus aux fées, tout ça, tu vois. Mais c'est la période de ta vie où t'as encore un peu envie de te rattacher à ça. Et je me rappelle qu'il y avait des endroits que je traversais dans cette forêt où c'était tellement hors du temps, de l'espace comme endroit, que t'avais vraiment l'impression que t'allais avoir des petites fées qui allaient surgir et... enfin...
Ouais, je capte.
Et je crois que mon âme d'enfant avait vraiment un attachement fort à ce lieu. Et je crois que c'est l'un des lieux qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Mais j'ai vraiment un truc fort avec les forêts. Si tu veux me rendre heureux, tu m'emmènes dans une forêt. Même un truc qui n'est pas vraiment une forêt, tu vois. Genre le lac de Lormont, tu vois, tu m'y emmènes, moi je suis dingue.
Ouais, pareil. Plus que d'autres espaces naturels, du coup.
Bah, par exemple, la mer, j'aime bien quand il y a des rochers. Mais tu vois, par exemple, moi, la cano...
Ah non, je déteste.
J'ai horreur de la cano.
Mais je comprends ça, moi aussi, je suis bien plus à l'aise dans les forêts parce que il y a un truc un peu de... Je sais pas, un peu, ouais, mystérieux, mystique, et puis de rassurant, de... qui tient et... Alors que, bon, la montagne, je me sens plus dangereux, mais bon, après, je me sens quand même bien. Mais la mer, par contre, ça m'angoisse beaucoup, très vite. Enfin, je trouve ça beau de loin, où genre marcher, justement, l'hiver et tout, mais dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a un peu ce truc à aller se baigner ou quoi, enfin, ça me semble... C'est à perte de vue, c'est immense, c'est froid, c'est mouillé, alors que j'adorais... Enfin, mais même mon enfant, en fait, j'ai toujours aimé nager, mais pas forcément dans la mer en tant que telle. Et j'aime voir de loin, mais... C'est pas un endroit où j'ai envie d'aller, tu vois, genre très vite, il y a le vent, il va faire froid, il y a les rouleaux, il y a les trucs, c'est... Alors que la forêt, ouais, je peux marcher en forêt pendant des heures, quoi.
Ouais, c'est marrant parce que j'aime bien la mer dans son côté effrayant. Moi, la mer qui va me plaire, c'est... tu vois, en Bretagne, il y a un endroit qui s'appelle la Pointe du Raz, et qui est aussi surnommé le bout du monde, et qui est genre... de la roche à perte de vue, avec des falaises comme t'en as jamais vu de ta vie, avec genre... des vagues qui font plus haut que genre mon appartement je crois enfin je veux dire en termes de et qui s'écrase et genre c'est tu vois la violence de la nature et la puissance et enfin ça me bouleverse fort et c'est un endroit que j'aime trop et j'aime bien la mer quand il y a des rochers et qu'on peut genre marcher dans les rochers et voir les petits crabes mais la mer toute propre avec juste du sable je trouve ça chiant et genre j'aime pas les plages touristiques.
Je suis d'accord. Et du coup, t'es à la fois bien dans des espaces naturels et dans des espaces plus urbains, construits, etc. Y a une différence dans les sensations que t'as. Enfin, tu fais vraiment une différence entre les espaces, on va dire, aménagés pour la vie humaine et les espaces plus encore naturel si on entre guillemets puisque tout a été modifié de toute façon par l'être humain mais
je crois que je suis rarement émerveillée par une ville. Je le suis très fort par Strasbourg. Je l'ai très longtemps été par Bordeaux et je crois que je me suis un peu lassée parce que ça fait 10 ans que j'y faisais. Je pense qu'une ville c'est comme un couple, tu vois, au bout d'un moment
tu pars pour mieux revenir aussi.
Ouais, c'est ça. Mais à part ces deux villes-là, et en même temps, non, c'est pas vrai, parce que j'adore l'architecture. Mais la nature, il y a ce truc de genre... je suis allée dans les Pyrénées avec ma partenaire il y a quelques semaines. Et j'avais ce truc de waouh, oh mon Dieu, et genre, oh les montagnes, et oh les arbres, et oh les cascades, tu vois, et des espèces de fascination, tu vois. Mais par exemple, je suis pas... je suis pas serein, tu vois. Enfin, j'aime bien avoir les choses pas loin. Et là, c'était hyper agréable et doux et confortable, mais parce que j'étais avec mon partenaire, tu vois. Mais je pense que j'aurais très vite cette sensation d'être coincée. Après, moi, j'ai pas de permis, j'ai pas de voiture et j'en veux pas, tu vois. Et du coup, je pense que ça joue aussi dans mon rapport à la nature, parce qu'en fait, t'en as besoin à la campagne. Et t'en as pas aperçu, enfin, t'en as pas besoin... même du tout en ville, enfin,
ouais.
Je veux dire, tu te passes à l'IKEA, quoi.
Fameux IKEA.
Ouais, mais moi, à part ça, une voiture, j'en ferais rien, tu vois. Ouais.
Du coup, t'aimes bouger dans les lieux où tu peux rester immobile dans le même moment, enfin, dans le même endroit, t'aimes faire des choses ou juste... Enfin, tu peux rester sans rien faire dans un même endroit. Ça évolue comment pour toi ?
Je peux avoir un côté très contemplatif. Mais que ce soit dans des lieux que je connais pas, genre la montagne, ou dans des lieux que je connais. Tu vois, par exemple, Saint-Mich, ça m'arrivait souvent de me poser en terrasse seule et juste de regarder les gens et de me remplir de l'air et de... Et du bruit, et de la chaleur, et du vent, et de tout ça, de Saint-Mich, tu vois. et juste de vivre maintenant le lieu. Et je sais que c'est lié à Saint-Mich, par exemple, tu vois. Mais je peux aussi faire ça à la fac, tu vois, et me poser sur un banc dans la cour d'honneur. Et juste, genre, sentir les énergies de la... du lieu et... je sais pas, j'ai aussi ce truc de me rappeler les souvenirs, tu vois, genre... je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie et besoin de quitter Bordeaux. C'est que j'ai ce truc, quand je marche dans un endroit, de me rappeler chaque souvenir de chaque endroit où j'ai été. Et je crois que j'avais l'impression un peu à Bordeaux d'être... dans un brouhaha de passé, tu vois, qui était lourd à vivre, en fait. Ah si, j'ai un truc avec les ponts aussi.
Ah ouais ?
Mais j'ai un truc très fort avec les ponts. Ben, quand je vais pas bien, la nuit, par exemple, à Bordeaux, j'allais sur les quais et j'y allais tard quand il y a un peu personne. Et c'est un truc que je fais depuis que je suis genre tout jeune. Enfin, je pense que ça fait 7 ans que chaque fois que genre on est l'été et que c'est ce soir, genre je vais me balader seule sur les quais. Et j'ai ce truc d'aller sur les ponts quand je vais pas bien. Et à partir du moment où je suis sur le pont et où je vois l'eau, j'ai une sensation d'apaisement total. Et bon, après, je pense que ça va un peu moins me le faire à Strasbourg parce que les ponts sont petits.
Mmh.
Et ils sont pas genre hauts, ils sont pas genre grands.
Mmh.
Et du coup, ça m'apaise moins. Mais en vrai, regarder l'eau qui coule sous un pont, ça m'apaise toujours. Enfin, même si c'est pas aussi.
Il y a des signes ici.
Il y a des sols pleureurs, genre.
Ouais.
Mais à Bordeaux, il y a ce truc de... Enfin, les deux ponts qu'on a à Bordeaux, ils sont très hauts, et ils sont très grands, et ils sont très larges, et en plus, les quais sont immenses. Et t'as la ville qui est illuminée, et t'as l'eau qui coule, et qui a ce truc de... Je sais pas, et genre, à partir du moment où je vois l'eau couler sous un pont, moi, je laisse les choses couler dans ma vie. Et après, ça va mieux.
Parce que je comprends. Et du coup, enfin, est-ce que tu dirais que c'est que les lieux ils sont un peu personnifiés, genre c'est des entités pour toi, ou juste c'est un peu comme, je sais pas, une enveloppe de plein de d'autres entités, ou c'est juste une émotion, ou c'est juste, je sais pas, un truc vague, enfin, comment est-ce que tu les conçois dans ta tête?
En vrai, j'ai dit que je voulais pas partir dans des trucs mystiques, mais je crois que c'est ce que je ressens. Je crois que les lieux, pour moi, ils ont vraiment une âme. Enfin... Ouais. Je crois que chaque lieu est un... Mais je pense que c'est lié aussi à la vie qu'il a remplie, tu vois. Enfin, on en parlait quand on est rentré dans le cloître l'autre jour. Tu sais, cette sensation d'apaisement et de calme tout de suite. Et pourtant, enfin, par exemple, à la fac, ça ressemble à un cloître, la cour d'honneur, tu vois. Et t'as pas cette sensation quand tu rentres dans la cour d'honneur de la fac. Enfin, moi, j'ai une sensation de bien-être, mais je sais que c'est pas du tout lié au fait que t'as... Et tu vois, enfin, je suis pas sûre que ce soit lié à la religion ou à un truc dans le genre, tu vois, mais je pense que c'est gorgé des énergies qu'il y a eu dedans.
Ouais.
Et du coup, c'est tellement, genre... paisible, tu vois, et je sais pas si c'est, enfin, ouais, c'est peut-être lié à ce qui s'est vécu dedans, parce que par exemple je trouve que les bâtiments qui sont très récents me font ressentir beaucoup moins de choses que
avec les vieux. Ouais
Oui,
du coup c'est pas, t'es pas dans un rapport au lieu et à l'espace qui est que par rapport à toi, mais il y a aussi ce truc de percevoir tout ce qui a été avant et tout ce qui a vécu avant. Et du coup, tu as parlé de la Réunion, parce que tu y as vécu du coup un an, c'est ça, quand tu avais 10 ans.
Ouais.
C'est à quelle place maintenant, ce lieu dans ta vie, dans ton souvenir par rapport à d'autres lieux, etc.
Ben, ça a une place très forte. Parce que ça a été un truc qui a vraiment marqué ma vie fortement, je crois, d'avoir vécu là-bas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je remets en question, parce que je suis une personne blanche d'origine, enfin, je suis française, genre ma famille est française, etc. Mais du coup, je pense que ça est en train de modifier aussi mon rapport
à Lille, mais je crois que ça a aussi marqué par mes goûts, par exemple, en termes d'alimentation. Je sais qu'ils sont très ils sont très marqués par la Réunion, tu vois. Mais à l'époque, ça a été vachement compliqué pour moi parce que je pense qu'à l'époque, moi, j'aurais pas fait le choix de partir à la Réunion. J'étais bien là où j'étais, j'avais des amis. Puis j'aime pas trop le soleil, moi j'aime bien la pluie. Et à l'époque, j'étais vraiment pas nature du tout. Et la Réunion, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait le paradis. Enfin, non, pas pour la température, ce serait un enfer par rapport à ça. Mais par rapport au lieu, enfin, t'as tout, t'as des lagons, t'as l'océan, t'as des lacs, t'as des cascades, t'as des montagnes, t'as des volcans, enfin, genre en termes de richesse, de nature, c'est incroyable. Mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là parce qu'en fait, je sais ce que c'est que de vivre dans un... Enfin, la Réunion est française, mais... En vrai, je sais pas, j'ai pas de... Je pense qu'il faudrait que je me pose vraiment et que je lise par rapport au dom-tom et tout ça. Et genre, enfin, tout ça, c'est une question de politique, mais en vrai, la culture est pas la même. Enfin, genre, c'est pas parce que ça appartient, je fais des gros guillemets, genre, tu vois, à la France, que... Enfin, c'est compliqué, tu vois. Mais du coup, il y a ce truc de la culture n'est pas du tout la même. Enfin, le comportement des gens n'est pas le même. La langue, là-bas, ça parle surtout créole, n'est pas la même. La nourriture n'est pas la même. Le climat n'est pas le même. Enfin, la télé, c'est pas la même. La radio, c'est pas la même. Enfin, genre...
Mais c'est complètement différent, culturellement.
Et je pense qu'à l'époque, j'avais 10 ans et je pense que c'est un moment de ta vie où en plus, t'as besoin de repères et tout. Enfin, c'était le début de l'adolescence, tu vois. Et de la puberté. Et je crois qu'à ce moment-là, je pense que c'était pas le bon moment pour moi de partir. Et du coup, je l'ai pas du tout bien vécu d'être en dehors de ma culture. Même si j'ai eu de la chance quand même que ce soit... Enfin, ça reste quand même très lié à la culture française forcément, tu vois. Mais, et du coup, quand j'étais pas vraiment heureux, je crois. Et en même temps, aujourd'hui, je réalise... Enfin, je réalise pas qu'aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte de ça, tu vois. Mais je pense que ça a vraiment été une chance pour moi de. En fait, de découvrir autre chose et de voir autre chose. Et pas juste parce que je suis partie en vacances un mois ou trois semaines. Enfin, pour moi, si tu pars en vacances un mois quelque part, tu connais pas du tout l'endroit, tu vois. Et enfin. Du coup, je sais ce que c'est de vivre dans une ville, dans une île au milieu de l'océan Indien, tu vois. Mais. Je sais pas, je crois que j'aimerais bien y retourner un jour. Je pense que ce serait important pour moi.
Et tu considères encore que c'est une partie de chez toi ?
Je suis pas sûre d'avoir considéré... je suis pas sûre de m'être sentie un jour chez moi là-bas. Tu vois, c'est un endroit où j'ai vécu. Mais moi, je m'y suis pas sentie... Enfin... Je m'y suis sentie bien à plein de moments parce que c'est un endroit qui est absolument merveilleux, parce que plein de choses, mais je me suis jamais sentie réellement chez moi là-bas. Et je pense qu'en plus, avec mon recul d'aujourd'hui et mon regard actuel sur les questions de colonialisme et d'antiracisme, etc., je pense que j'aurais pas eu le droit, en fait. Je veux dire... de me sentir chez moi là-bas ou d'appeler cet endroit chez moi, tu vois.
Je le comprends. Ah, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Et là, aujourd'hui, tu aménages à Strasbourg.
Oui.
Tu dis que c'est... Enfin, toi qui avais rarement genre, des accroches comme ça avec des villes, à part bah, Bordeaux où tu as vécu, tu sais ce qui te plaît autant à Strasbourg qui fait que tu t'y sens aussi bien directement?
Je crois que c'est lié à un truc, en fait. Déjà, je trouve que la ville est extrêmement paisible. Et je crois qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai justement... Enfin, la chose dont j'ai besoin plus que tout, c'est de calme et de choses paisibles et de douceur. Et je trouve cette ville incroyablement douce et paisible. Et je pense qu'il y a aussi un truc... Et je pense que ça, c'est lié aux gens qui y vivent et enfin, plein de choses, tu vois, mais... Et je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que c'est une ville à colombages. Et moi, j'ai vécu... J'ai vécu pendant longtemps à Quimper. Et qui est une petite ville en Bretagne, enfin une petite ville, pas si petit, ouais, non, si c'est petit ouf. Et qui est une ville à colombages en fait. Et quand je suis à Stras, j'ai l'impression d'être dans une espèce de. Enfin, ça ressemble pas tant que ça, c'est pas non plus Quimper, et je voudrais pas retourner vivre à Quimper, honnêtement, du tout, du tout, du tout. Mais. On dirait un peu un truc qui ressemblerait un peu à un Quimper, mais en beaucoup plus grand, tu vois. Et en même temps, ça ressemble pas trop. Et du coup, je crois qu'il y a un truc un peu familier dans cette ville de... Puis j'ai un truc avec le Nord et...
Ouais. Ok. Et par rapport à cet appart et tout, du coup, tu te sens... Tu as envie de nous parler, de nous décrire le lieu, de nous décrire pourquoi est-ce que tu t'y sens bien et tout.
Le chalet laid.
Le chalet laid, qui n'est pas si laid que ça. Mais c'est vrai qu'on dirait un peu un chalet.
Ouais, mais je crois qu'en fait j'aime bien. Ben. J'ai grave peur qu'on ait pas de. J'ai grave peur d'avoir pas d'appart quand on a trouvé. Enfin, quand on a commencé à chercher. Parce que les agences répondaient pas. Et on a fini par décrocher des recherches. Enfin, des visites d'appart. Et du coup, mes parents ont fait le choix de passer par une agence parce qu'ils trouvaient ça plus sécur et vu que je suis genre à. 700 km d'eux, si j'ai un problème, c'est plus simple de passer par une agence que par un particulier. Et du coup, on est arrivé, on en a visité plein. Et lui, c'était vraiment pas mon premier choix. Parce que je dois avouer que j'ai plutôt un truc de genre. Instinctivement, je partirais plus à choisir sur des endroits très blancs. Avec beaucoup de lumière. Et là, en fait, j'ai un beau mur en béton, genre 3 mètres de ma fenêtre. Et puis, c'est pas. Enfin, tout est en bois, en fait. Mon plafond est en bois, mes murs sont en bois. Et mon sol est du lino de type marron aussi. Donc, voilà. Mmh. Du coup, c'est pas forcément très. C'est pas mon espace épuré blanc dont je rêvais. Mais. En fait, je trouve ça hyper chaleureux. Genre je trouve que c'est hyper cocon. Et oui, du coup en fait celui-là on l'a choisi parce que c'était juste le moins cher et surtout il est extrêmement bien situé et je crois qu'au début quand on l'a pris je le trouvais vraiment moche et en fait il y a eu un mois entre le moment où on a trouvé l'appart et le moment où j'ai eu les clés. Et du coup j'ai passé un mois à mater les photos de mon appartement pour savoir quel meuble choisir, si je partais sur tel ou tel ton de déco, tu vois. Et en fait, plus le temps passait, plus genre, je m'attachais aux photos que je voyais et aux lieux, tu vois. Et je crois qu'à force de regarder les photos aussi, quand je suis rentrée dedans, je le connaissais déjà par cœur.
Mais t'étais pas influencée justement par le fait, parce que t'as vu du coup les gens qui vivaient là avant, donc comment c'était avant, non?
Non, il était déjà vide quand je l'ai visité. Bah, je crois que j'ai bien aimé nettoyer en fait avant, avant d'emménager, avoir ce truc de genre. Tu sais, faire à neuf moi-même, ça m'a. J'ai bien aimé.
C'est important pour se réapproprier le lieu et,
ouais.
Et après, là tu prends ton temps aussi pour l'aménager. Et, et après, il y a un autre truc, c'est que du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'une lettre que tu avais fait à ta fac, je crois.
Ouais.
Et en fait, c'est, je me rappelle que tu avais fait un peu la même chose pour le déco.
Oui.
Et genre, du coup, vu que les lieux ont l'air un peu importants, enfin, du coup, c'est un truc que tu fais régulièrement, genre,
d'avoir besoin de dire au revoir au lieu d'avoir une sorte de rituel, de cérémonie ou genre de deuil ou de quelque chose, enfin comment tu le qualifierais, comment tu...
Par exemple, quand je quitte un endroit pour la dernière fois, que je sais que ça va probablement être la dernière fois, genre un établissement scolaire par exemple, et ça date d'il y a vraiment très longtemps, parce que je me rappelle de mon dernier jour en CM2 et d'être extrêmement consciente à l'époque que c'était mon dernier jour, et de me dire à chaque fois, ok, ça c'est la dernière fois que je fais ça, c'est la dernière fois que je fais ça. Et de le moment où je franchis la porte, pour la dernière fois, de genre avoir conscience du fait que c'est la dernière fois que je franchis la porte de ce lieu. Mais en fait, je crois qu'il y a un truc que j'aurais peut-être dû te dire plus tôt. C'est que j'ai déménagé 11 fois, je crois, entre mes 0 et mes 12 ans.
À des endroits très loin les uns des autres?
Pas nécessairement.
T'as vécu où du coup, enfin, si tu veux en parler.
Je suis née à Bordeaux. Mes parents étaient étudiants à l'époque. Du coup, on y restait à peu près un an, je crois. Ensuite, on a déménagé en banlieue parisienne. On y est resté un an, je ne me rappelle pas trop. Et ensuite, on a déménagé dans une... à l'époque, ce qui me semblait être une énorme maison en pierre avec un champ. Qui devait juste être une petite maison en pierre avec un petit jardin. qui était à la campagne à côté de Rennes, je crois. Et qui était... j'ai pas énormément de souvenirs là-bas, mais quelques-uns quand même. Je crois que j'aimais bien cette maison. Et ensuite, on a déménagé dans... Ah si, c'était trop cool parce que... Ah si, je pense que c'était grand parce que ma mère avait quand même un potager au fond du jardin. Et en fait, il y avait un muret en pierre. Et derrière le muret, il y avait une école maternelle. Et ma mère avait jamais prévu de m'emmener à l'école. Je devais faire l'école à la maison, normalement. Et en fait, j'ai vu les enfants de l'autre côté du muret et j'ai dit à ma mère, je vais aller jouer avec les autres enfants et je vais aller à l'école. Et à l'époque, j'avais 2 ans. En fait, du coup, je suis allée à l'école avant d'avoir 3 ans.
Ok.
Et ma mère, pour m'emmener à l'école, me passait par-dessus le muret. Et ça, je m'en rappelle. Et ensuite, j'ai déménagé dans un bled pas très loin, mais qui n'était pas dans la même ville. Je crois que j'ai pas changé d'école. Enfin, c'était vraiment un tout petit endroit. Et du coup, je crois que l'école était divisée en plusieurs niveaux de classe. Mais genre, tu sais, genre t'avais pas tous les maternelles au même endroit. Du coup, genre, je suppose que ça a dû changer quelque chose. Et là-bas, on vivait dans un pavillon, on avait un immense jardin. Et c'était trop bien parce que mes voisins de gauche, c'était une ferme. Il y avait une petite fille qui avait le même âge que moi, qui avait genre un an de plus, tu vois. Et l'autre pavillon, enfin l'autre, les autres voisins, c'était aussi une ferme. Et il y avait aussi une petite fille, donc qui était beaucoup plus grande que moi, mais on s'était pris d'affection l'une pour l'autre. Et du coup, j'avais des amis des deux côtés, et genre on pouvait se balader comme on voulait, manger des noisettes dans le jardin, et puis on allait voir les veaux qui naissaient, les petits lapins, et c'était bien. Et c'était trop chouette comme endroit. Et ensuite, on a déménagé vers Nantes, dans une petite ville. Et alors là, j'ai détesté ce lieu. J'adorais ma maison. Parce que mes parents ont mis 3 ans à la rénover. Et genre, c'est la chambre dont je parlais, la chambre de mes 7 ans. Et j'avais un tapis... J'avais de la moquette rose hyper épaisse. Et rose, rose, hein. Et ma mère, j'avais une mezzanine à l'époque, avait emménagé le truc. Genre en dessous, j'avais un espèce de coin cocooning. Et elle avait mis des draps transparents avec des guirlandes de lumière sous la mezzanine. Et j'avais genre une balançoire et du foliaire autour, genre dans ma chambre.
Wow.
C'était trop bien. Mais par contre, la ville, je me faisais harceler dans l'école où j'étais les 2 premières années. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à être dépressive en fait. Et ensuite, du coup, ma mère m'a changé d'école. Et en fait, là, je me suis encore de nouveau fait harceler. Et du coup, j'ai vraiment un souvenir de cette ville. Enfin, je me rappelle très bien de ma chambre que j'aimais très fort. Mais alors le reste, je pense que plus jamais je fous les pieds là-bas, quoi. Les pires souvenirs de ma vie, c'était dans cette ville. Et ensuite, on est parti. Et on est allé à Quimper, en Bretagne. D'abord, on a vécu dans une ville pas loin, parce que mes parents avaient acheté une maison, donc il fallait qu'ils la rénovent. Et genre, les 6 premiers mois, le temps que ce soit à peu près habitable, on avait une autre maison. Et je crois que j'ai un attachement assez fort à cette ville et à ma maison de Quimper, que mes parents ont toujours d'ailleurs. Parce que je pense que c'est l'un des premiers endroits où on s'est un peu posé. Enfin, c'est l'un des seuls endroits en fait qui est resté sur le long terme dans ma vie. Parce que je suis restée 3 ans au Pèlerin. Mais. Après, on a vécu du coup en Bretagne. Et ensuite, on est parti à La Réunion. Mais on a gardé la maison de Bretagne. Et quand on est rentré, on a vécu 2 ans dans la maison à Quimper, encore, avant de partir à Bordeaux. Mm-hmm. Et en fait, pour moi, à l'époque, passer 3 ans quelque part, c'était un espèce de maximum énorme, tu vois. Et du coup, Bordeaux, pour le coup, ça a tout de suite été un truc où j'avais un attachement fort à cette ville. Parce que du coup, toute mon enfance, enfin avant d'arriver à Bordeaux, j'avais pas vraiment d'endroit où j'étais vraiment restée longtemps et où du coup j'avais eu le temps d'être chez moi. Parce que bah, très vite on partait et t'as pas le temps de nouer des choses, tu vois. Et en fait, Bordeaux, vu que mes parents avaient fait leurs études là-bas, on y retournait régulièrement, il y avait tous les étés, il y avait les amis de mes parents qui étaient là-bas et tout, et du coup j'avais, enfin je connaissais cette ville, et puis il y avait ce truc de genre j'y suis née, donc c'est chez moi, tu vois, enfin. Enfin bon, on s'en tape un peu, tu vois, mais. Oui, du coup Bordeaux c'était très important quand on arrivait de. Enfin. Et en fait à Bordeaux, au bout de quelques mois, je suis tombée vraiment très malade. Psychologiquement et du coup j'étais hospitalisée et j'ai dit à mes parents que j'en pouvais plus et que je voulais plus bouger parce que, enfin, que moi je déménagerais plus en tout cas parce que enfin, mon père avait trouvé un nouveau travail dans une nouvelle ville et du coup envisagé de changer et moi ça faisait même pas un an que j'étais à Bordeaux. Et du coup j'ai dit stop, enfin j'ai dit moi je veux plus qu'on bouge. Et du coup à partir de ce moment-là mon père a continué à changer de travail toutes les 2 semaines et puis enfin, toutes les 2 semaines, j'abuse un peu. Mais et puis nous on est resté à Bordeaux.
Et du coup à chaque fois dans tous ces déménagements, c'est dès le début très jeune où t'as. Enfin même avant ce souvenir du CM2, t'avais déjà des formes de façon de dire au revoir aux différents endroits ou.
Je crois pas.
Et tu gardais. Enfin, tu gardais des liens, tu es retournée ou t'as gardé contact avec des gens ou pas du tout?
De toute mon enfance, j'ai gardé contact avec juste ma meilleure amie de CM1, donc à Quimper. Bon après on s'est engueulé plus tard quand j'étais au collège, du coup on se parle plus maintenant, enfin mais à part cette personne là j'ai jamais gardé contact avec qui que ce soit.
Ok. Et après j'ai une question, enfin moi c'est un truc que je me demande souvent quand tu lis des livres et que tu dois projeter les personnages dans des lieux. Du coup, est-ce que tu imagines des lieux de A à Z ou même dans tes rêves et tout, enfin, tu imagines des nouveaux lieux que tu n'as jamais vus parfois ou que tu crois ne jamais avoir vus, ou tu pioches un peu dans les différents lieux dans lesquels tu as vécu, ou est-ce que c'est toujours les mêmes lieux dans lesquels tu as vécu qui reviennent, enfin, ça se passe comment?
Je crois que j'ai plutôt tendance à imaginer des lieux.
Ok. De A à Z, genre. Ou des lieux que tu aurais vus dans des films, ou genre.
Ouais, plutôt ça.
Ok.
Mais après j'ai une pensée qui est très visuelle. Du coup.
C'est-à-dire.
Bah des fois on va me dire des trucs et j'ai la image dans la tête. Mais par exemple, si tu me dis, je sais pas, j'ai la tête dans le cul, tu vois, je peux très facilement genre, avoir vraiment un flash de la personne avec genre, littéralement sa tête dans son cul, tu vois.
On est tous très contorsionnistes.
Mais pour plein de trucs, tu vois, ou genre, et du coup, dans ma tête, ça fait genre un. Ouais. Et après, je. Mais.
Ok.
Mais oui, du coup.
Ok.
Non, je vois les choses quand on.
Ouais, tu peux les imaginer, du coup. Enfin, les différentes histoires que tu peux t'imaginer, il y a des histoires qui se reproduisent parfois au même endroit, ou c'est toujours des nouveaux endroits pour chaque histoire que tu vas lire ou imaginer ou...
En fait, ça dépend de. Ça dépend aussi du livre et de la manière dont l'autorise décrit les lieux. Enfin, je crois que c'est très particulier aussi mon rapport au livre, parce que j'ai un peu... pendant longtemps, tu vois, j'étais pas... Je dirais pas que j'étais un enfant particulièrement pas heureux, parce que j'avais quand même ce truc de... Enfin, j'avais une famille très aimante et j'étais très gâtée, j'ai jamais eu de... Enfin, tu vois, genre, ma vie n'a pas été... Mais je crois que j'étais pas non plus l'enfant le plus... Tu vois, j'avais pas trop d'amis. Du coup, je passais mes récré à lire, et la plupart du temps, dans mon enfance, j'étais... Enfin, j'ai un peu tendance à considérer que j'ai jamais été vraiment enfant, tu vois. Et je jouais pas trop, enfin... Par contre, je lisais beaucoup. Genre, à partir du moment où, où j'ai appris à lire et on m'a foutu un bouquin entre les mains, bon, jusqu'à ce que j'ai YouTube et Netflix. mais à partir de ce moment-là, je lisais peut-être un livre par jour toute mon enfance, tu vois. Et j'ai un attachement très fort aux bouquins. Et je crois qu'il y avait vraiment un truc de genre, je vivais pas beaucoup ma vie, par contre je vivais beaucoup à travers les livres. Mmh. Et je pense qu'il y avait ce truc très fort pour moi dans les livres de m'échapper en fait. Mmh. Et de vivre autre chose que ce que je vivais dans la vraie vie.
Après, je sais pas si t'as envie de parler d'un truc en particulier sur les lieux, mais enfin après sinon j'ai une question rituelle aussi de
dis-moi
de la fin et tout, que j'ai envie de poser aux personnes que j'interroge sur ce sujet, enfin que j'interview sur ce sujet, c'est un peu la question des cinq sens. Genre, quelle est la vue qui te fait le plus de bien dans un lieu?
J'hésite entre mon lit et le plafond de mon lit.
Mm-hmm.
Et une forêt.
Ok.
Par exemple, tu vois, quand je fais de la méditation et qu'on me demande de penser à un endroit paisible,
ouais.
Je pense à mon lit. Non, je pense au plafond de mon lit.
Bah oui, je comprends. Et en plus, on en parlait hier aussi de la première image qu'on voit aussi quand on se réveille, qui est importante. Ok. Et du coup, le son qui te fait le plus de bien dans un lieu?
La pluie.
Comme là. Ouais. Première pluie strasbourgeoise. Et l'odeur?
J'aime bien comme ça sent là, parce que j'ai mis du Palo Santo. Et le Palo Santo, ça sent Sam.
Mmh.
Et Sam, c'est une personne très importante de ma vie. Et c'est une odeur un peu sucrée, et je suis très touchée par les odeurs sucrées.
Et du coup, bah, le goût
J'ai jamais léché mes murs.
Allez. Mais je sais pas, genre un goût qui te rappelle chez toi?
Les crêpes.
Et le toucher qui...
Le velours.
Ok. Que t'aimes, et t'aimes du coup avoir du velours chez toi?
Ouais.
Dans des endroits en particulier ou...
Bah là, beaucoup sur mes coussins, bientôt sur le fauteuil.
Ouais.
beaucoup sur mes vêtements. J'adore le velours. Si je pouvais, je foutrais du velours partout, du velours vert sapin. Et genre, je recouvrirais tous les gens et tous les espaces de velours vert sapin et de velours vert d'eau.
Mmh.
Et le monde serait beaucoup plus beau comme ça. Bon, ce serait un peu sombre. Mais...
Ok. Du coup, là, tu dirais que t'as plusieurs chez toi? Ou t'en as un?
Non, je crois que c'est chez moi, ici. Enfin... Mais c'est drôle, tu vois, parce qu'à un moment, j'ai vécu avec mon ex. Et elle vivait dans la même ville que mes parents. Et en vrai, je vivais là-bas, mais je squattais surtout, on va dire. Et pendant toute la période où je vivais là-bas, tu vois, c'était chez moi, mais en même temps, c'était pas totalement chez moi. J'hésitais toujours à dire que c'était chez moi, alors que mon ex était OK avec ça, tu vois. Et j'avais un peu ce truc de genre pas me sentir totalement chez moi là-bas, plus me sentir chez moi chez mes parents. Et en même temps, les deux étaient chez moi. Et c'était trop bizarre parce que j'avais ce truc de pas vraiment savoir où c'était chez moi. Et genre, il y avait plusieurs chez moi, mais en même temps, il n'y avait aucun chez moi. Et c'était super étrange comme sensation. Mais je crois que j'ai une capacité à me sentir chez moi dans des lieux qui ne sont pas chez moi. Genre, la fac, par exemple, j'avais ce truc de... en détail un peu bizarre, mais pendant longtemps j'allais à la fac le matin tôt pour bosser, et en fait j'avais pris l'habitude de prendre mon petit déj à la fac et d'aller aux toilettes le matin, mais à la fac. Et en arrivant, tu vois, et j'avais vraiment ce truc de genre quand je rentrais dans la salle de travail, de genre me sentir vraiment chez moi. Et d'ailleurs, il y avait mes profs qui se foutaient de ma gueule et qui me disaient que, genre, au bout d'un moment, ils allaient me filer les clés, que si je voulais, je pouvais rester dormir à ce stade-là. Et oui, je rentrais vraiment tard chez moi. Je partais à 21h de la fac et j'arrivais le matin à 8h. Enfin, ouais, c'était chez moi. Et par exemple, l'appart de ma meilleure pote, enfin, son ancien appart, je crois que c'était aussi pas mal chez moi. Enfin, tu sais, c'était pas vraiment chez moi parce que c'est chez elle, et genre, enfin, je prenais pas non plus totalement mes aises, mais tu vois, c'était le genre de c'était le genre d'endroit où t'arrives et c'est toi qui proposes du thé, genre je fais du thé, tu vois. Et je pense que j'aurais pu avoir ce truc là avec ta maison aussi, tu vois.
Tu vas revenir.
Ouais. Mais le gecko, par exemple,
ouais,
ça a été chez moi.
Ouais. Et là, maintenant, ça te manque ou...
Le gecko. Ouais, je crois que c'est un lieu où je... C'est un lieu qui me manque. Je pense souvent, par exemple, à au rooftop.
Ouais.
Et au moment où on voyait les hirondelles.
Tous les soirs.
Ouais.
C'était un peu le rituel, genre, on va voir les oiseaux.
Ouais.
Un coucher de soleil. Et du coup, on voulait aussi faire ce podcast et tout, parce que justement, on parlait de l'importance d'avoir un chez-soi et que c'était ce dont on avait envie de parler. Toi, t'as quelque chose à dire là-dessus, sur pourquoi c'est si important le chez-soi, genre à tes yeux?
Je crois que c'est la première fois que j'ai un chez-moi qui est vraiment chez moi et pas chez quelqu'un d'autre. Parce que, tu vois, chez mes parents, enfin chez ma mère, c'était chez moi, j'avais une chambre, etc., tu vois. Mais quand t'es ado, tu dis pas je rentre chez mes parents, tu dis je rentre chez moi. Et quand t'es adulte, on te demande si tu vis chez tes parents. Tu vois. Et du coup, je pense que j'ai, tu vois, ce truc aussi de me sentir chez moi à la fac ou chez ma meilleure pote, c'est aussi parce que genre je pense que je cherchais à me sentir vraiment chez moi quelque part. Et tu vois, c'est drôle, mais ici, ne serait-ce que, parce que la déco, tu vois, genre j'ai pas encore décoré de ouf, tu vois, juste il y a mes plantes et j'ai accroché mes cordes et un cadre et un bénitier, tu vois, et je sais pas, le fait qu'il y ait ces éléments là de déco et qu'il y ait ça dans ma cuisine et qu'il y ait ma plante dans ma cuisine, et genre il y a un truc de genre il y a ma pâte un peu partout et je décide, et il va pas y avoir les affaires de quelqu'un d'autre qui traîne.
Pour l'instant, les miennes, mais bientôt plus.
Oui, mais c'est ok, tu vois. Mais oui, mais c'est temporaire aussi, tu vois. Enfin, il y a pas les photos de gens que... Des amis, de gens que je connais pas. Et pas...
Et d'avoir les clés aussi, ça change un truc, non?
Ouais. Bah, chez mon ex, pendant longtemps, j'avais pas les clés. Ouais, mais ce truc aussi, par exemple, de savoir que t'as personne qui va débarquer. Mais avant ça, moi, enfin... Mon ex, on vivait en coloc. Je crois que dans la coloc, on était genre 7. 7, c'est beaucoup. Et chez moi, j'ai une grande famille, donc on est beaucoup aussi. Et du coup, j'ai l'habitude de vivre en communauté, mais en...
Communauté,
tu vois. Genre, c'est pas... j'ai pas vécu en couple à deux, j'ai pas vécu en coloc à deux ou trois, tu vois. Genre, j'ai vécu avec des gens. Et du coup, là, je vais être seule chez moi. Et je crois que pour l'instant, je suis très enthousiaste et j'aime beaucoup cette idée, mais j'ai un peu peur quand même de...
Normal.
Tu vois, par exemple, de ne pas avoir de bruit. Enfin, là, en fait, je crois que c'est un truc qui est... Mon appart est hyper mal isolé. Et je blague un peu en disant que grâce à l'isolation, je serai plus jamais seule. Mais en fait, genre, c'est plutôt un truc que je ressens et que je vis de manière très positive, tu vois.
Oui, parce que du coup, t'entends les bruits de tous les voisins, de tous les trucs. Enfin, t'es pas complètement seule.
Ah, mais moi, je suis ravie d'avoir les voix de mes voisins, d'entendre leur radio. Je pense que c'est parfait. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi. J'ai conscience que je suis pas seule. Mais...
T'es dans ta bulle.
Mais j'ai dit ma bulle et aller faire ma clé, tu vois. Parce que tu vois, là, en ce moment, j'ai envie d'être chez moi. Genre, j'ai hâte de rentrer à la maison, tu vois. Et j'ai pas eu hâte de rentrer à la maison. Enfin, à moins qu'il pleuve et que je sois crade, tu vois. Genre. Mais sinon, pas trop. En fait, je crois que je me suis jamais permis de vraiment m'approprier les espaces. Genre, je cuisinais pas chez mes parents. Parce que on mangeait tous à la même heure. Et du coup, il y avait un peu ce truc de... on allait se marcher dessus parce que la cuisine n'était pas très grande. Enfin, pas très grande pour une grande famille, je veux dire. Et du coup, j'allais pas trop cuisiner. Et
tu veux rajouter quelque chose ou...
Non, je crois pas.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ton bonne construction de ton petit nid, de ta petite maison d'escargot.
Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Bras le corps.